Sur le long chemin qui parcourt les archives de Saint-Antonin, le XVIIe siècle est certainement le virage le plus important. Nous y avons consacré plusieurs émissions. Mais avant de le quitter, il nous a paru intéressant de revenir sur certains points. Pour traduire le plus fidèlement possible les questions que peuvent se poser nos auditeurs, j'ai demandé à Christian de participer à cette émission. Monsieur Julien, Christian, bonjour.
Bonjour Patrick.
Bonjour.
Madame Julien a choisi la musique qui illustrera cette émission. Monsieur Julien, tous ceux qui ne connaissent l'histoire qu'à travers leurs souvenirs scolaires ont dans leur esprit un Moyen-Âge très sombre, où les pauvres étaient écrasés par les puissants et les seigneurs. Le XVIIe siècle, au contraire, est symbolisé par Versailles, le grand siècle du roi Soleil. Or, vous pensez exactement l'inverse. Vous avez très longuement, au cours de ces émissions, expliqué votre point de vue.
Oui, je ne pense pas exactement l'inverse. Je crois qu'il faut dénoncer une simplification abusive de l'histoire qui est dû aux historiens, ou du moins aux auteurs de manuels d'histoire, à l'usage des écoles de la Troisième République. On a là, par une volonté délibérée de promouvoir l'esprit national, on a fait la part un peu trop belle à ce qu'on appelle l'état moderne, l'époque contemporaine, c'est-à-dire à partir de la Renaissance jusqu'au XXe siècle, et on a délibérément classé dans l'obscurité et le néant tout ce qui était cette magnifique civilisation dite du Moyen-Âge et qui couvre depuis le Xe jusqu'au XVe siècle sans aucune retenue, et on a tout à fait occulté, si on peut dire, le caractère de progrès, le caractère de grande civilisation de cette époque. Enfin, les églises romanes, les magnifiques cathédrales gothiques devraient conduire les gens un peu plus de retenue quand même là-dessus, hein. Bon, alors, je n'ai donc pas inversé les choses, j'ai présenté la situation au XVIIe siècle comme elle apparaît à travers les documents. Et je crois que les historiens maintenant, les actuels historiens, même ceux qui font des manuels scolaires aujourd'hui, ont essayé de se démarquer de cette tendance à faire de l'histoire événementielle et à toujours essayer de trouver à toutes les époques un héros, un personnage magnifique comme le roi Soleil. Bon, ben on a vu que la période du roi Soleil n'illumine pas tout le monde, hein. Et puis on a eu Napoléon, etc. Bon, je crois que ça, c'est un travers qui a été abandonné et c'est heureux. Les historiens actuels, sérieux, étudient la société à une époque donnée. Et ils savent très bien qu'un homme, quel qu'il soit, aussi génial soit-il, ne peut rien contre ce qu'on appelle l'évolution sociale et économique, qui est la résultante de faits bien plus complexes que sa taille à lui, ou la couleur de ses cheveux, ou sa volonté, hein, ou ses caprices.
Et est-ce que vous pouvez essayer d'analyser un peu pourquoi justement ces historiens étaient arrivés à ces conclusions-là ?
Eh bien, ils étaient arrivés à ces conclusions-là parce que ils n'avaient pas la possibilité de faire état de documents qui, finalement, n'ont été étudiés à fond qu'à l'époque contemporaine. C'est seulement à la fin du XIXe siècle qu'est né le service des archives en France de façon intelligente, je veux dire des archives classées et utilisées. Et alors nous n'avions, au fond, avant 1860, si vous voulez, nous n'avions comme documentation que tout ce qui avait été raconté sur la vie des grands, que ce soit les chroniqueurs de Saint-Louis ou de Louis XI, je parle de Comines, de Froissart, etc., que ce soit ensuite les historiographes du roi, dont par exemple Racine. Vous voyez, on connaissait l'histoire à travers les mémoires de Saint-Simon. Mais Saint-Simon, de quoi il parle ? Il parle de la cour, il parle de Versailles, et il n'est jamais allé dans les champs et dans les villages. Et un écrivain comme La Bruyère, qui avait commis ce livre magnifique que sont les caractères, et dans lesquels il avait introduit ce texte que j'ai présenté un jour, ben ça, on considérait que c'était une petite chose à part. On privilégiait le document existant, c'est-à-dire ce qui avait été dit sur les rois, leurs ministres, et on oubliait l'essentiel, c'est-à-dire le peuple travailleur, qu'il soit pauvre ou riche, mais enfin le peuple qui fait le pays, en fin de compte.
Oui, je crois que le journal de Lucien Aymard est une. S'il n'y avait pas ça,
Eh bien voilà, nous le disions au sujet du siège. Si nous n'avions pas eu ce petit document de Aymard, là, sur le siège de Saint-Antonin, eh bien, qu'est-ce qu'on saurait du côté Saint-Antoninois? Rien du tout. Nous n'en connaîtrions que ce qu'avait dit Bassompierre, hein, c'est-à-dire peu de choses.
Peu de choses. Et on serait passé peut-être à côté de la réalité
de la réalité de ce siège. Voilà, à mon avis.
Monsieur Julien, la République protestante était, disons, assez égalitaire.
Dans une certaine mesure, oui.
Et parmi ces Saint-Antoninois, en très peu de temps, certains se sont enrichis, d'autres se sont appauvris.
Oui.
Comment vous expliquez cela ?
C'est pas un phénomène que tout le monde peut bien comprendre. D'abord, bon, il y a les événements imprévus et qui apportent des modifications graves dans la vie des gens. Ils peuvent être de nature familiale ou ils peuvent être alors dus à des causes extérieures. Il est sûr que, par exemple, la défaite qu'ont subi les protestants après le siège de 1622 a provoqué dans certaines familles de l'élite protestante des catastrophes parce qu'ils avaient mis dans cette résistance au pouvoir royal en tant que protestants, ils y avaient mis non seulement leur cœur, leur âme, leur force, mais aussi leur argent. Et ils l'ont perdu. Ça, c'est un premier point. Mais ensuite, il y a, comme toujours, les gens qui ont de la chance dans la vie et d'autres qui n'en ont pas. Ça, c'est une autre explication à l'enrichissement des uns, à l'appauvrissement des autres. Mais il y a un phénomène qui apparaît au XVIIe siècle et qui était déjà bien amorcé au XVIe, c'est la montée de ce qu'on appelle le capitalisme, c'est-à-dire l'apparition dans les rapports entre les hommes de l'argent, de la monnaie. N'oublions pas que l'Amérique a été découverte à la fin du XVe siècle et que l'Espagne, grande nation colonisatrice, a exploité les terres du Nouveau Monde et a importé en Europe des quantités énormes d'or et d'argent, ce qui a fait croître considérablement la masse monétaire, ce qui a introduit l'argent dans les rapports entre les hommes. Autrefois, c'était le système du troc. Quand on louait une ferme, le fermier versait son fermage en nature. À partir du XVIIe siècle, et on le voit très bien dans tous les contrats de fermage ou de métayage, le fermage est versé en partie en nature, toujours, bien sûr, mais surtout en argent. L'argent apparaît. Or, quand l'argent apparaît, apparaît aussi ce qu'on appelle l'usure, le prêt. Le prêt avec intérêt. Il y avait certes des prêteurs d'argent au Moyen-Âge, et le taux du prêt, le taux des prêts, le taux d'intérêt au Moyen-Âge, c'était au denier 20, c'est-à-dire un vingtième, soit 5%. Or, déjà au XVIIe siècle, ça vous montrera un peu, ça illustrera ce que j'ai dit en parlant de capitalisme, on prête maintenant au XVIIe siècle au denier 16, ce qui est déjà beaucoup plus, je ne sais pas, faites le calcul, ou au denier 12. Au denier 16, ça fait plus de 6%, et au denier 12, ça fait plus de 8%. Alors, voyez, se manifeste là un système capitaliste, et il est sûr que quelqu'un disait dans une émission récente que pour devenir riche, il fallait voler son premier million. Hein. À cette époque-là, c'était pareil. S'enrichissaient ceux qui manipulaient l'argent. Non pas forcément des banquiers, ceux qui avaient réussi par ambition, par capacité personnelle, et puis il y a un savoir-faire. Tout le monde ne devient pas riche, n'est-ce pas? Et alors donc, il s'était produit ce phénomène que des gens s'étaient enrichis grâce à ce prêt. Mais celui qui s'enrichit grâce à des prêts, enfin par une loi naturelle, il appauvrit celui à qui il prête. Et nous avions ainsi, notamment dans la campagne, des paysans criblés de dettes. Et cette situation va durer jusqu'au XXe siècle. On a vu des paysans qui avaient leurs tiroirs remplis de petits billets de reconnaissance de dettes. Autrement dit, vous vous plaignez aujourd'hui les paysans que c'est le Crédit Agricole qui possède vos terres et vos animaux et tout ça. Mais ne vous plaignez pas trop, le Crédit Agricole c'est une entité, c'est une banque après tout. C'est une chose qui n'existe pas, entre guillemets. Tandis qu'à ce moment-là, C'était à des gens qu'on devait. Et soyez tranquille, un prêteur physique, un homme, un bourgeois qui prête à un paysan, il est féroce et dangereux. Donc évidemment, vous voyez, c'est le système des vases communicants à l'envers. Et l'argent vient du pauvre et il va toujours au riche. L'eau va toujours au moulin, à la rivière.
Voilà, c'est ce qui explique que la différence s'est faite très rapidement.
Très rapidement, et elle va s'accentuer ainsi jusqu'à notre époque. C'est ce qu'on appelle l'état moderne, ça.
Monsieur Julien, vous nous parliez de la richesse. Le mariage au XVIIe siècle était guidé par la fortune des gens, souvent, par l'intérêt.
Oui.
Vous pouvez nous donner un exemple de contrat de mariage ?
Oui, on peut en donner beaucoup, bien sûr, d'exemples de contrats de mariage. Il n'est pas de mariage sans contrat. Et ce contrat se passe devant le notaire. Songez qu'au XVIIe siècle, à Saint-Antonin, il y avait 6 notaires. Ne vous étonnez pas, il y en avait un à Arnac, il y en avait un à Fénérolles, il y en avait un à Espinasse, il y en avait un à Mordagne. Mais dans les petites villes importantes comme Saint-Antonin, il y en avait 6. Et ces notaires ne chômaient pas. Ils employaient 2 ou 3 clercs qui rédigeaient dans la même journée, j'ai compté un jour pour le notaire Delpech, qu'il avait enregistré 5 actes différents, 3 actes de mariage et 2 obligations de dette, c'est-à-dire 2 reconnaissances de dette. Donc on passe le contrat devant le notaire à un jour dit et on se présente là, les 2 familles réunies. Ce contrat devant le notaire se passait avant la célébration du mariage religieux, n'est-ce pas ? Il n'y avait pas de mariage à l'état civil. Les consuls ne mariaient pas les gens. C'était l'église catholique ou protestante qui mariait, comme je l'avais dit, en faisant part des registres d'état civil. Donc les 2 familles sont rassemblées là chez le notaire. Et le notaire le dit explicitement qu'ils sont tous là, de part et d'autre, n'est-ce pas ? Et il nomme qui c'est qui accompagne et le marié et la mariée. Et tout acte de mariage commence par ces mots qui en disent long, au nom de Dieu. Sache tous présents et à venir que l'an de grâce 1664 est le 12e jour du mois de juin après-midi, dans la ville de Saint-Antonin de Rouergue, régnant notre très chrétien prince Louis XIVe par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, ça c'est le chapeau du contrat. Par devant moi, notaire royal de la dite ville et les témoins banommés ont été constitués en leur personne. Et alors, on nous annonce de qui il s'agit. Alors là, j'ai pris un exemple. Cette année 1674, j'ai choisi justement deux jeunes tourtereaux. Je ne sais pas s'ils étaient jeunes. On ne me donne pas leur âge. Enfin, il s'agit de Jacques Tabarly, qui est fils de Jean Tabarly et de feu Marie de Delmas. Sa mère est morte, donc. Attention aussi pour les gens qui croient qu'ils descendent de nobles quand ils voient comme ça un contrat de mariage. Hein. Faites bien attention. Fils de Jean Tabarly et de feu Marie de Delmas, c'est Marie qui est la fille de Delmas. Ça, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'elle est noble. Hein. Ce Jacques Tabarly, il est laboureur du masage de Tourundol, dans la juridiction de notre ville de Saint-Antonin. Et il se marie avec Florette, ce joli nom, Pagèse, fille de Jean Pagèse. Voilà une autre observation. Les filles et les femmes portaient le nom de leur père, mais un peu à la mode russe, si vous voulez. La fille de Pagèse s'appelait Pagèse, comme sa femme. Hein. Et la femme de Tabarly s'appelait la Tabarline. La femme de Calmon s'appelait Calmone. On féminisait le nom du mari ou du père. Et les filles de Jean Pagèche et de feu Marie de Bougnol mariée. Alors voilà, la mère de la fiancée, elle aussi est morte. Ce qui en dit long, vous voyez, rien que dans ce contrat de mariage, on peut voir que 2 jeunes gens se marient, qu'il y a à leur mariage leur père et que leurs mères sont absentes. Très souvent, les mères manquaient dans les familles de paysans ou même des gens de la classe, et même chez les nobles, parce qu'il y avait de nombreuses difficultés à l'accouchement et qu'il y avait souvent des femmes qui mouraient en couche. Ce n'est pas rare, ça. Bon, alors, lesquelles parties dont on vient de parler? Les parties, c'est le marié, la mariée, le futur. Procédant à faire le contenu au présent contrat du vouloir, licence et consentement d'Edith Avarly, père et pagesse, leur père. Voilà, il fallait que les jeunes mariés, ils aient le consentement de leur père et de leur mère. La majorité à cette époque-là n'existait qu'à 25 ans. Mais même, je pourrais vous donner l'exemple, mais ce serait trop long, d'un contrat de mariage où il s'agit d'une fille qui a 42 ans. Elle a passé l'âge, enfin, bon. Eh bien, elle ne peut pas se marier sans le consentement de son père et de sa mère. Celle-là aussi, sa mère était morte. Mais il lui a fallu le consentement de son père. Son père ne voulait pas qu'elle se marie, il ne le lui a pas donné. Alors, elle a fait dresser devant notaire des actes priant son père de lui accorder son consentement. Et il fallait qu'elle le fasse par trois fois. Et alors, si au bout de troisième sommation, si on peut dire, ce n'était pas une sommation, elle demandait respectueusement à son père, elle le faisait par trois fois, par acte notarié, si au troisième acte, qui était signifié par le notaire au père, le père répondait toujours non, on passait outre. Mais il fallait le faire trois fois. Inutile de vous dire que le notaire ne faisait pas ça pour rien. Bon, alors voilà, ceux-ci ont eu les consentements du père de l'une et de l'un, et alors de leur gré et franc vouloir, ont promis se prendre en mariage et s'épouser. Et ceux-là, comme ils sont paysans, ils s'épouseront en l'église catholique, apostolique et romaine, lorsque l'une partie requerra l'autre. Alors là aussi, il y avait des contrats de mariage qui étaient passés devant notaire, et au bout d'un certain temps, le mariage n'était pas célébré et l'un des deux fiancés changeait d'avis. Alors là, c'est pour ça que on met l'une partie requiert à l'autre. Alors, l'un ou l'autre ont le droit de dire le mariage doit avoir lieu, hein. Plus d'attente. Maintenant, il faut le faire. Voilà. Et à ce moment-là, intervient dans le contrat, après avoir énuméré toutes les personnes qui assistent à ce contrat de mariage. Et alors, la formule est très jolie parce que le notaire dit assistant ici, respectivement, de part et d'autre, de part et d'autre. Et alors, il nomme ceux qui accompagnent le futur marié et ceux qui accompagnent la future mariée. Et alors, il y en a une foule. Attention à ce que je vais dire. J'ai compté dans un mariage, là il s'agit d'un mariage de grands bourgeois, 30 signatures après le contrat de mariage. Ici, dans le contrat que j'ai sous la main et sous les yeux, il n'y aura que 4 signatures. Ça dépend de la classe dans laquelle on vit. Les paysans étaient très souvent illettrés. Sauf les grands pagesses, mais ils étaient illettrés. Au contraire, chez les artisans et chez les bourgeois, tout le monde ou presque savait signer. Alors maintenant, on en vient à la partie sérieuse, c'est-à-dire à la dot. Et on nous dit que pour contemplation et supportation du prochain mariage, c'est-à-dire pour supporter les charges de ce mariage, qu'est-ce que vous nous donnez? Alors en général, c'est le père du marié qui dit « moi je donne ça ». Alors ici, M. Tabarly de Tourondol donne à son fils la moitié de tous et chacun ses biens, meubles et immeubles, droits, voix, noms et actions qui lui peuvent être et advenir. Autrement dit, il lui donne la moitié de tout. Mais il décide aussi que le dit Tabarly père et les futurs mariés vivront à même peau et feu, travaillant ensemble de tout leur pouvoir. Autrement dit, la fille Florette Pagèse va aller habiter à Tourondol chez son beau-père Tabarly, et nous aurons là, dans cette ferme, deux familles en quelque sorte, et avec les grands-mères, etc. Donc, ce n'est plus la famille nucléaire, vous voyez, à cette époque-là, au XVIIe, c'est la famille telle que les connaissaient les gens de mon âge, quand ils étaient enfants, une famille où il y avait à la fois les parents, les grands-parents, les enfants, les tantes, les cousins. Hein, c'est pas la famille unique réduite à deux époux. Et outre ce, en plus de ceci, il a décidé autre chose, le père du marié. Il a émancipé et tiré hors de sa puissance et autorité paternelle le dit Tabarly, fils, futur époux. Parce que ça, c'est important, l'émancipation. Même un garçon majeur, s'il n'était pas émancipé par son père, ne pouvait pas disposer de ses biens, négocier, acheter, vendre en toute liberté. Il lui fallait la caution de son père. Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui, vous voyez. Un enfant majeur, eh ben, il est libre, totalement. Alors, lui, le dit pagesse, le père de la mariée, qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh ben, il donne à sa fille Florette, qui va le quitter, il lui donne la somme de 300 livres en argent, qui proviennent de 180 livres de son chef propre à lui et 20 livres qu'elle peut prétendre du chef de sa défunte mère, c'est-à-dire de l'héritage de sa mère. Autrement dit, l'héritage de la mère passe à la fille, vous le voyez. Ça fait 300 livres, c'est une somme assez importante, puisque ça représente en gros 300 livres, 3 paires de bœufs à peu près, hein. C'est quand même beau. Et alors voilà, et c'est ça qui est, il lui donne ensuite ce qu'il faut, c'est-à-dire une couette et un coussin rempli de plumes pesant 60 livres, une couverture de laine, 4 draps de toile, on ne disait pas drap, on disait laine seule, 2 robes, l'une de drap de paysan, l'autre de rase de couleur. Le drap de paysan, évidemment, c'est une robe très grossière, mais l'autre, qui est rase de couleur, c'est une étoffe de laine rase, fine, et c'est certainement cette robe de rase qu'elle portera le jour de son mariage. On ne s'habillait pas en blanc. On s'habillait avec de beaux vêtements de rase, de laine fine, avec un beau corsage. Et on précisait même quelquefois le cotillon, ce qui était sous la robe. Alors, ces robes étaient souvent noires, et quelquefois couleur de coulon, de pigeon. Je ne sais pas ce qu'elle est, cette couleur de pigeon. Ça dépend de quel pigeon, oui. Il lui donne ensuite à sa fille 2 brebis avec leur suite, c'est-à-dire avec leurs agneaux. Et enfin, une caisse fermée à clé neuve, c'est-à-dire son armoire en quelque sorte, puisque les armoires à cette époque n'existaient pas. Voilà, et ensuite viennent des détails sur à quelle époque seront donnés ces objets. En général, tout ce qui est matériel sera donné le jour du mariage, et la somme d'argent, dans ce cas précis, sera versée la moitié le jour du mariage et l'autre moitié au bout d'un an. Mais dans quelques cas, la dot, qui est quelquefois très importante, comme par exemple chez Monsieur de Marsat, le noble de Marsat qui marie sa fille et qui fait à sa fille une dot de 5000 livres, c'est énorme. Eh bien, il la lui paie quand même pas tout de suite, hein. Il la lui paie un petit morceau, en 5 ans, d'abord. Et deuxièmement, c'est pas des livres qu'il lui donne en argent, ce sont des droits seigneuriaux qu'il possède, dont il fait l'estimation, et il lui donne ses droits. Faut pas croire que c'est des 5000 livres vendus comme ça. Voilà un cas de mariage. Après ça, alors, le marié reconnaît tous ses biens, il les accepte. Parce que la jeune mariée lui a dit qu'elle se donnait elle et tous ses biens, ainsi décrit. Et il les reconnaît comme bien d'auto, il en prend la responsabilité et il s'engage à les restituer le cas échéant ce que Dieu ne veuille. C'est-à-dire en cas de décès. Alors là, un phénomène assez curieux qui montre que la femme était tenue dans une estime qui n'était plus celle que nous connaissions au début du XXe siècle, c'est que toute la dot de la femme est confiée au mari, c'est sûr, mais qu'elle lui appartient toujours à sa femme, et qu'elle en disposera, elle, comme elle l'entendra au moment de sa mort. Et si, par malheur, le mari vient à décéder avant la femme, non seulement la dot que la femme avait apportée lui reviendra tout entière, plus la part d'héritage des biens en commun qu'ils ont pu acquérir, mais elle bénéficiera de cette curieuse chose qu'on appelait le droit d'augment, c'est-à-dire un pourcentage de sa dot qui variait avec les provinces et qui pouvait atteindre 50% de la dot. Voilà pour le mariage. Je pourrais citer 30 ou 40 exemples. Évidemment, les contrats reflètent la condition sociale, vous l'avez vu par cet exemple, et dans d'autres cas, eh bien, on ne donne rien. Dans les familles de brassiers, le père de la mariée lui donne en général une robe, hein, en général une robe, un jupon, pas toujours un lit, et il lui donne ce qu'il a à lui quand il mourra. Hein. Elle peut toujours espérer, quoi.
Oui, on voit donc que la femme n'est plus considérée tout à fait de la même façon que dans les périodes précédentes. Quelle est l'importance un peu de la femme au XVIIe siècle ?
Ben, la femme n'a pas une importance légale fondamentale puisqu'elle est toujours sujette à son mari et que ses biens sont administrés par son mari. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, elle n'est pas livrée pieds et poings liés au mari. D'abord donc parce qu'elle reste maîtresse de ses biens, absolument. Et deuxièmement, parce qu'on le voit ensuite dans le cas, par exemple, des enfants naturels. Aujourd'hui, la société s'est quand même considérablement libéralisée, mais il y a encore 50 ans, une fille séduite par un personnage masculin qui avait un enfant était livrée, la pauvre, à elle-même et devait élever son enfant. Bon, à l'époque où nous sommes, au XVIIe et au XVIIIe siècle, si une fille avait été séduite, comme on disait, entre guillemets, vous comprenez ce que ça veut dire, et que de cette séduction il y eut des suites matérielles, c'est-à-dire un enfant, eh bien, elle avait le droit, et non seulement elle avait le droit, mais elle avait le devoir de dénoncer au prêtre qui enregistrait l'enfant sur son registre d'état civil, de lui dénoncer l'auteur, hein, celui qui l'avait séduite, justement. Et le nom de celui qui l'avait séduite était ainsi inscrit sur le registre. Alors, il n'y avait que le cas, évidemment, compréhensible, où le prêtre était très embarrassé, parce qu'il demandait à la fille, évidemment, qui était son séducteur, mais en même temps, il prenait ses renseignements. Et il y a un curieux acte de baptême où le prêtre, après avoir hésité, sans doute, et sûrement après avoir pris des renseignements, puisque ceci est écrit d'une encre différente, plus noire que l'autre, il ajoute « et de père inconnu ». C'est-à-dire qu'il est allé un peu partout, et alors, malheureusement, on a dû lui dire des choses qui font qu'il ne pouvait pas, décemment pas, désigner l'auteur de l'enfant. Et alors il dit « de père inconnu selon la rumeur publique ». Voilà, il ne s'aventure pas beaucoup. Mais voyez, rien que sur ce phénomène des enfants naturels, nous n'avions pas fait, jusqu'à une époque récente, de très grands progrès. Le bâtard, c'était l'enfant infâme, au XXe siècle, tandis qu'au XVIIe, il était reconnu. Vous avez d'autres cas, par exemple, vous avez un seigneur, le seigneur de Bain qui meurt, eh bien dans son testament, je ne veux pas vous lire tout, je n'en finirai pas, il lègue une partie de son héritage à deux enfants naturels qu'il a eus. Et il ose le dire, ça, ce n'était pas une honte comme au début du XXe siècle.
Oui, et il y a même une évolution assez rapide depuis, par exemple, la République protestante. Ben, On se souvient de la servante de Bertrand Petitmestre qui avait été jetée hors de la ville parce qu'elle avait eu un enfant de lui.
Oui, et avouons que la République protestante était puritaine, hein, et que l'acte de chair, d'ailleurs dans toutes les religions, hein, l'acte, bon, enfin, oui, surtout chez les protestants, l'acte de chair n'était pas ce qu'il y avait de plus beau dans la vie des hommes. Hein, on n'avait pas la même opinion qu'aujourd'hui.
Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris. Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris. Que donneriez-vous, belle, pour un femme mariée? Oh, prêtre blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Oh, prêtre blonde, qu'il fait bon dormir. Je donnerai Versailles, Paris, Saint-Denis. Je donnerai Versailles, Paris, Saint-Denis.
Donc les biens de chaque époux sont consciencieusement inventoriés.
Oui.
Et puis, il y a l'héritage après. Alors comment ça se passait? Parce que c'était des familles nombreuses, en principe, vous nous disiez.
Oui, ce sont des familles nombreuses, mais l'héritage ne se partageait pas, comme vous pouvez le penser, s'il restait à la fin de la vie des parents, encore quatre enfants, ce qui était très beau dans une famille. On n'avait pas coupé en quatre les choses, hein, pour faire l'écart. Non. D'abord, le testament est, après l'acte, contrat de mariage, l'acte le plus important de la vie des êtres au XVIIe siècle. Tout le monde fait son testament. Tout le monde, sans exception. Et ce qui justifie ce que je disais à l'instant, cela prouve plutôt que si tout le monde fait son testament, c'est que l'héritage ne se partage pas naturellement en parts égales. Tout le monde fait son testament, un brassier comme un noble. Et ça, il le fait quand? En général, quand il sent sa mort prochaine. Hein? Le laboureur de la fontaine sentant venir sa mort, hein? Il fait aussi son testament. Mais quelquefois aussi en cas de risque supposé ou réel. Par exemple, à la fin du XVIIe siècle, au moment où Louis XIV est en guerre contre toute l'Europe et il a besoin de beaucoup de soldats, il lève partout, je l'avais dit, des soldats qui sont enrôlés par des recruteurs militaires dans les familles les plus pauvres. On se fera soldat. Eh bien, ces soldats savent ce qui les attend. Et on trouve, à partir des années 1678 et jusqu'à 1690, de très nombreux testaments de jeunes gens qui partent au service du roi. Bon, alors que font-ils ces gens-là qui font testament, ces gens-là, c'est-à-dire tous ceux qui font testament? Eh bien, ils disposent des biens que Dieu leur a donnés. C'est une belle formule, ça. Et qui marque bien que notre époque est beaucoup plus individualiste que celle du XVIIe siècle. À ce moment-là, on ne considérait pas que les biens qu'on avait, on les avait à soi. C'était Dieu qui vous les avait légués. Et alors donc, soit que l'on parte au service militaire, soit que l'on soit une jeune femme enceinte et que l'on craigne de ne pas traverser sans grave danger les difficultés de l'accouchement, soit qu'on soit une personne âgée, on nous dira avancée dans l'âge, soit qu'on soit malade et que l'on soit gisant dans son lit, détenu de certaines maladies corporelles, on convoque le notaire et des témoins qui, le notaire vient, il vient dans la chambre où est couché le testateur, il vient dans la maison si on n'est pas couché, et il prend note. Et il écoute ce que vous avez à dire. Mais tout d'abord, il y a une cérémonie à laquelle se livre le testateur. Après avoir prononcé ces mots sacramentels, sachant que la mort est certaine et l'heure d'icelle incertaine, ce qui me paraît très beau, a voulu disposer des biens que Dieu lui a donnés, afin qu'à l'avenir, il n'y ait discorde entre ses héritiers. Et alors, premièrement, s'il est protestant, il recommande son âme à Dieu, le Père Tout-Puissant. S'il est catholique, le texte dit, et premièrement, il s'est muni du signe de la croix et il a prononcé la parole du psalmiste, « Immanutua Domine, je mets en tes mains mon âme, Seigneur ». Et ensuite alors, on procède à l'énumération des légats. Vous savez, qu'est-ce qu'il va donner? Eh bien voilà, tout d'abord, il y a une longue énumération, excusez-moi, je ne vais pas vous le lire, il nous faudrait bien un trop long moment. Il commence en général par donner une somme aux pauvres. Ça, c'est quelque chose de frappant aussi. Ça veut dire d'abord qu'il y avait des pauvres, c'est-à-dire des mendiants, mais ça veut dire aussi que la morale de l'époque faisait compenser d'abord à eux. Cette somme donnée aux pauvres est en général uniformément de 5 sous. Ce n'est pas beaucoup. Une journée d'ouvrier se payait 15 sous. Mais enfin, c'est un geste. Mais les gens plus riches, les gens plus aisés, les nobles, les bourgeois, allaient jusqu'à 30 livres. J'ai trouvé dans un testament 30 livres aux pauvres. Évidemment, là, on y mettait une condition. On exigeait que ces pauvres fassent des prières pour l'âme du défunt. C'était quand même pas une condition très redoutable. Et cette somme que l'on lègue aux pauvres sera distribuée le jour, devant la porte de la maison, le jour de l'enterrement. Ensuite, on lègue aussi. Alors maintenant, on a fait son choix. Et il y a une très longue énumération. À un tel, qui sont quelquefois des enfants ou des filles, on leur donne aussi 5 sous. Voulant par ce légat qu'ils ne puissent plus rien demander sur la succession. Et enfin, on en vient à la désignation de l'héritier universel et général, ou de l'héritière universelle et générale. C'est en général, pour des personnes âgées, le fils ou la fille, mais pas toujours. Et l'on voit très souvent désigné comme héritier le conjoint, c'est-à-dire l'homme qui sent qu'il va mourir, fait héritière sa femme. Autrement dit, il déshérite pratiquement ses enfants. C'est curieux quand même ça, hein. Voyez que la succession ne se partage pas. Bien entendu, la mère, quand elle mourra, aura toute possibilité et faculté de léguer ses biens à ses enfants. Mais ce qui caractérise le droit civil à cette époque, c'est que tous les enfants d'une même famille ne sont pas au même niveau. Il y a toujours... Alors quand on dit et la propriété s'est morcelée parce que quand il y a eu des héritages, on a coupé en deux, en trois, en quatre la propriété... Non, pas toujours. pas toujours. On a préservé par ce moyen de l'héritier préférentiel, on a préservé le territoire, justement, ou le fonds de commerce. Voilà ce qui me paraît intéressant. Je pourrais, si ça vous intéresse un jour, vous lire un contrat, un testament, bien sûr, complet, mais enfin, quel intérêt ça présenterait-il ? En voilà, justement, les exemples les plus remarquables. Hein. Il n'y a donc pas égalité, il y a préférence. Voilà ce que c'est que le testament au XVIIe siècle.